Chapitre 1. Deux jours plus tôt. Ils l'attendaient, embusqués dans la ruelle, et l'agressèrent au moment où elle regagnait le bureau. Elle n'avait rien vu venir. Le crépuscule avait plongé la Venelle dans le noir, la falaise calcaire qui la dominait de sa masse imposante ajoutait aux ombres. Et elle avançait sans méfiance vers quelqu'un qu'elle connaissait quand deux bras puissants la saisirent par derrière. Le repas chinois lui tomba des mains et la bouteille de vin explosa en heurtant le sol. Une grosse main s'était plaquée sur sa bouche, l'empêchant de crier. Alors elle balança des coups de talon. Elle eut la satisfaction de sentir ses ruades percuter des tibias épais et fut récompensée par un grognement de douleur. Mais ça ne servit à rien. Les mêmes bras forts la soulevèrent et l'emportèrent vers une voiture qui attendait au bout de la ruelle. Elle entrevit la carrosserie noire profilée comme un requin d'une BMW et se retrouva à plat ventre sur la banquette arrière, le visage plaqué sur le cuir des sièges. Puis elle entendit rugir le moteur du véhicule qui démarrait sur les chapeaux de roue. L'immobilité forcée lui fit prendre conscience des battements affolés de son cœur. On l'avait bien prévenu qu'elle pouvait s'attendre à avoir des ennuis et qu'il ne fallait faire confiance à personne. Elle n'avait pas tenu compte de ses mises en garde et maintenant, on l'avait enlevée. Non seulement elle était terrifiée, mais elle s'en voulait à mort. Quelle idiote elle faisait de ne pas avoir écouté ses avertissements. Obligeant son esprit terrorisé à se fixer sur des questions plus pratiques, elle nota qu'il gravissait une pente suffisamment raide pour la faire glisser vers le fond de la banquette, tandis qu'une main lourde lui maintenait toujours la figure plaquée contre le siège. Elle resta là, dans une position inconfortable, à compter les secondes dans l'espoir de garder la notion du temps. Il s'était écoulé 3 minutes à peu près quand la voiture prit un virage à droite et s'engagea sur un terrain plus ou moins plan. Une sorte de piste sur laquelle la BMW rebondit pendant 20 secondes avant de s'immobiliser. On lui mit un bandeau sur les yeux et on la tira du véhicule dans l'air du soir. Mais il n'y avait qu'un Ofcomden, autrement dit un étranger, né loin des murets de Pierre des Vallons, pour penser qu'un bout de tissu suffirait à faire perdre le nord à une fille du pays comme elle. Le vent fort qui lui caressait les joues et charriait une odeur printanière d'herbe et de mouton lui en disait aussi long qu'une carte routière sur l'itinéraire qu'ils avaient suivi. La géographie de sa ville natale étant assez unique pour lui donner une idée précise de l'endroit où elle se trouvait. Un criaillement strident, accompagné d'un claquement d'ailes frénétique tout proche, fit sursauter son ravisseur, qui resserra sa prise sur son bras.
« Saleté de Cambrousse !»
marmonna-t-il, alors que des oiseaux prenaient bruyamment leur envol. Des faisans surpris. Et un grand nombre à en juger par le vacarme qui s'envolait maladroitement, confirmant son intuition initiale. Elle était quelque part dans les hautes collines à l'est de la ville, pas loin du grand domaine où on élevait ce gibier à plumes destiné à la chasse, et près de la ferme et leur chaud. Ses parents, son frère aîné et sa famille devaient être en train de dîner dans la cuisine de la ferme. Si elle criait, est-ce qu'ils l'entendraient ?
N'y pensez même pas.
L'avertissement fut accompagné par la pointe d'un objet acéré appuyé sur la peau tendre du dessous de son menton. Une main ferme qui la tenait par le coude la conduisit à travers un terrain accidenté, puis dans un bâtiment où on l'assit de force sur une chaise. Une porte se referma en grinçant derrière elle et on lui enleva le bandeau qui lui masquait les yeux. Elle se trouvait dans une grange abandonnée au sol de terre battue, jonchée de foin. La lumière d'une ampoule nue s'efforçait de chasser les ombres de l'espace sépulcral et un parfum boisé, de cèdre, incongru, planait dans l'air froid. Nous ne vous voulons aucun mal. L'inspectrice Jess Green se tenait debout devant elle, sa blonde chevelure auréolant son visage séraphique. Nous voulons juste vous parler. Chapitre 2. 24 heures plus tôt.
On dirait ben qu'il a dormi tout enrobé de sucre dans un nid de guêpe.
Samson n'eut pas l'énergie de répondre. Il se contenta d'émettre un grognement et s'assit à la petite table de la cuisine du premier étage de la maison qui lui servait de logement et de bureau. De sa position matinale habituelle au fourneau, Aïda Capstick, la femme de ménage requalifiée cuisinière et réceptionniste, rivait sur lui un regard farouche. Ce même regard qu'elle arborait au quotidien, en plus farouche encore, si toutefois c'était possible, avec supplément froncement de sourcils.
Il y a quelque chose qui le tarabuste ?
La question abrupte fut accompagnée d'un mug de thé énergiquement asséné devant lui, la seule monnaie d'échange affectif que pratiquait Aïda. Il secoua la tête, mentant avec aplomb, grâce à une vie entière passée dans les faux-semblants. Mais Aïda n'était pas du genre à s'en laisser compter et elle continua à le dévisager, les bras croisés sur sa poitrine.
« Si je le connaissais pas comme si je l'avais fait, je dirais qu'il a la gueule de bois », continua-t-elle sans désarmer.
C'est qu'Aïda savait à quoi s'en tenir. Samson O'Brien, contrairement à son père, était connu pour ne jamais boire d'alcool. À part une fois, il y avait quelques mois de cela. Un écart mémorable, après lequel il s'était bien juré de ne jamais renouveler l'expérience. Sauf que, vu la tournure des choses, l'idée de traverser la route pour passer la journée à noyer son chagrin à la toison pouvait paraître certainement attirante.
« Je suis fatigué, c'est tout », murmura-t-il. « La semaine a été plutôt chargée. »
Aïda le regarda encore une seconde et se retourna vers son fourneau où une poêle à frire était en train de chauffer.
« Pas pour moi, merci », dit Samson. « N'est pas faim. »
Il aurait pu économiser sa salive. Aïda ajouta quand même du bacon dans la poêle et pendant qu'il crépitait, elle beurra 3 tranches de pain. Au rez-de-chaussée, la porte de derrière s'ouvrit, se referma et 2 rythmes de pas se firent entendre dans l'entrée puis dans l'escalier, l'un considérablement plus rapide que l'autre. Quelques secondes plus tard, la masse grise floue d'un grand braque de Weimar faisait irruption dans la cuisine en remuant furieusement la queue.
« Salut, Calimero !»
fit Samson en serrant le chien dans ses bras. Il se sentit le cœur léger pendant quelques instants et aimé. Quand il releva les yeux de son étreinte canine, sa propriétaire, partenaire professionnel et cause de toutes ses souffrances, était plantée sur le seuil de la porte. Le visage blême, les yeux rougis par le manque de sommeil, un sourire crispé par la tension, Delila Metcalf avait visiblement aussi mal dormi que lui.
Salut.
Lança-t-elle à personne en particulier, d'une voix grêle, hésitante. Aïda se retourna, accordant le même regard scrutateur à la nouvelle arrivante qu'à Samson. Elle eut un claquement de langue réprobateur.
« Elle a bu à la même source que celui-là »,
marmonna-t-elle avec un mouvement de tête en direction du seul convive attablé.
« Ça va »,
fit Delila, parvenant à élargir son sourire d'un cran. Mais bien qu'elle ait fait de grands progrès dans l'art de donner le change depuis 6 mois qu'elle se trouvait sous la tutelle experte de Samson, elle ne trompait pas son public.
« Je n'ai pas très faim, c'est tout. Alors rien pour moi, merci. »«
Il y a du thé dans la théière »,
rétorqua Aïda en beurrant 2 tranches de pain supplémentaires. Delila eut un haussement d'épaule, remplit un mug de thé et retourna se planter dans l'embrasure de la porte, le regard obstinément rivé sur Calimero, qui s'était posté aussi près que possible du bacon en train de frire, dans les limites du périmètre concédé par la cuisinière.
« Il peut s'asseoir, hein, il mord pas le Samson !»
marmonna Aïda par-dessus son épaule. À en juger par l'expression qui s'inscrivit sur le visage de Delila, elle n'en était pas convaincue. Pourtant, elle obtempéra et prit place en face de lui, sans le regarder. Cette femme qui, 12 heures plus tôt à peine, lui avait posé un lapin. Cette femme qui avait propulsé ses émotions à des sommets étourdissants avant de lui tourner soudainement le dos, le laissant tout seul et abattu